Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie de partager, méditer la parole de Dieu, mais aussi une grande responsabilité. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» En introduction, ces trois versets de l'évangile de Matthieu, chapitre 24. C'est le dernier sermon de Jésus sur le mont des Oliviers. Et comme nous venons de le lire, les disciples ont posé deux questions à Jésus. Alors ce matin, nous allons essayer de répondre aux deux questions. Il y en a une qui va être plus facile à répondre que l'autre. Donc vous l'aurez compris ce matin, ou si vous ne l'avez pas compris, nous allons parler de la fin des temps et nous allons parler de la venue de Jésus. Amen. Notre espérance en tant que chrétien, c'est de savoir que Jésus revient. On l'a chanté dans le dernier chant d'ailleurs. Jésus vient. Pour cela, on va s'appuyer sur la seconde partie de Matthieu, chapitre 24. À partir du verset 36 jusqu'au verset 51. Matthieu, chapitre 24, verset 36 à 51. Bon, vous avez trouvé. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne se laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître a son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples en répondant à ces questions que lui posaient ses disciples. Alors j'ai donné plusieurs noms à mon message. Es-tu prêt au retour de Jésus-Christ? Ou bien te prépares-tu au retour de Jésus-Christ. Ou un troisième titre, comment te prépares-tu au retour de Jésus-Christ? Alors chaque génération, vous me direz, s'est dit proche du retour de Jésus-Christ. D'ailleurs, les disciples eux-mêmes ont associé la destruction du temple à la venue aussi de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont posé ces deux questions, associées les unes avec l'autre, parce que eux déjà pensaient que Jésus-Christ allait revenir après la destruction du temple. Mais il y a des époques aussi, plus que d'autres, où des chrétiens pouvaient légitimement se dire que Jésus revient bientôt. Peut-être que vous avez en tête la Première ou la Seconde Guerre mondiale, où les chrétiens qui ont vécu ça devaient se dire « ça y est, Jésus revient bientôt ». Plus proche de nous, nos frères et sœurs ukrainiens qui souffrent en ce moment d'une guerre injuste. Sans parler de toutes les catastrophes naturelles que nous subissons depuis plus de 30 ans, qui s'accélèrent, qui se multiplient, ou bien des catastrophes nucléaires, ceux qui ont vécu Hiroshima, ceux qui ont vécu Tchernobyl, la dernière en date en 2011, Fukushima. Alors oui, le retour de Jésus arrive bientôt. Non pas parce que je le pense, je le crois, mais parce que la parole de Dieu le dit. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Il le dit à la fin de la Bible, dans Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22. Les deux derniers versets. Celui qui atteste ces choses, c'est-à-dire Jésus, dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Alors vous me direz que c'est un bientôt qui dure longtemps, puisque ça fait plus de 2000 ans que Jésus doit revenir. Mais vous savez, si vous ne savez pas, un jour sont comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans sont comme un jour. Alors si on fait un petit calcul, ça ne fait que 2 jours et quelques heures que Jésus-Christ est parti, peut-être, aux yeux de Dieu. Et surtout, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas le même que le temps des hommes. Si nous attendons le retour de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est déjà venu une première fois. On est d'accord avec ça. Amen. Alors sa première venue sur terre a été de rendre justice à Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. Et pour sa première venue, Jésus s'est incarné dans un homme. Il était 100% homme, 100% Dieu pour accomplir le plan du Père. Par contre, sa seconde venue sera de juger les morts et les vivants et de trier les personnes qui hériteront de la vie éternelle et de ceux qui hériteront de l'enfer éternel. Alors peut-être que ce matin, tu te demandes ce que c'est la bonne nouvelle. Tu t'approches de Dieu peut-être en ce moment et ces choses-là te dépassent, tu ne sais pas. Alors je vais rapidement expliquer ce que c'est. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous coupables et que nous méritons tous la mort. La Bible dit qu'il n'y a aucun juste, même pas un seul, sur la terre. Et qu'il n'existe aucun moyen par lequel nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Alors jusque-là, vous allez me dire, mais c'est pas une très bonne nouvelle. Attendez, c'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Et il est l'agneau de Dieu qui offre sa vie en rançon pour vous et pour moi. Pourquoi ? Afin de détourner la colère de Dieu sur lui. Cette colère que nous méritions à cause de notre faute, de nos péchés qui nous ont éloignés de lui, cette colère-là, il l'a prise sur lui à la croix. Car oui, l'homme a péché, et pour que cette offense vis-à-vis de Dieu soit pardonnée, il faut une sentence et que la justice soit rendue. La justice a été rendue en Jésus-Christ à la croix par son sacrifice. Et pour que cette justice soit éternelle, il fallait quelqu'un de parfait, en qui il n'y avait aucun péché, et qu'il soit de la même nature que nous. C'est pour cela que Jésus s'est incarné dans un homme. Alors, nous allons regarder ce texte en quatre parties. La première partie, le retour de Jésus au verset 36, est imprévisible. La seconde partie, le comportement du monde avant sa venue, versets 37 à 39. La troisième partie, Jésus séparera les hommes en deux catégories, versets 40 à 44. Et la quatrième partie, la seconde venue de Jésus aura des conséquences éternelles, versets 45 à 51. Alors voilà le programme, j'espère qu'il vous plaît, parce que j'en ai pas d'autres, mais nous allons commencer par la première partie. Verset 36. Le retour de Jésus-Christ est imprévisible. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Un peu de contexte pour bien comprendre le texte et ce que nous allons voir ce matin. J'ai lu les trois premiers versets justement pour que nous ayons le contexte. Le contexte, c'est que Jésus quitte pour la dernière fois le temple, comme nous l'avons lu. Il venait de s'exprimer auprès des autorités juives, des pharisiens. Et pour la dernière fois, il quitte le temple. Et les disciples, en quittant le temple, lui font remarquer la construction de ce temple. Les pierres, l'édifice majestueux, puisqu'à l'époque, c'était peut-être le plus majestueux des édifices de l'époque. Et Jésus prend la balle au bon et répond à ses disciples en leur disant que le temple, en fait, allait être détruit. Et à ce moment-là, comme on l'a lu, les disciples ont demandé quand est-ce que cela arriverait-il, et en même temps, quel sera le signe de son retour et de la fin du monde. Donc la première question, elle est rapide à répondre, puisque la destruction du temple a eu lieu en l'an 70 à Jérusalem. Tout ce que Jésus avait prédit dans la première partie de Matthieu 24 s'est déroulé. Il y a eu des guerres, des bruits de guerre, il y a eu la destruction du temple, il y a même eu le lieu saint qui a été bafoué, puisque ce temple avait été dédié à Zeus, et du coup il y a même eu des sacrifices de cochons dans ce temple, sachant que pour un juif, le cochon était un animal impur. Donc Jésus n'a pas caché et a bien expliqué ce qui allait se passer. À la deuxième question, par contre, comme nous venons de le lire, Jésus dit que même lui seul, que même lui ne le connaît pas, mais que seul Dieu le Père connaît le jour et l'heure de la fin du monde et de son retour. Alors, ni le monde, ni l'Église ne verra arriver le retour de Jésus. Car c'est ce qu'enseigne Jésus à ses disciples dans ce sermon. Ceux qui ont essayé de calculer le retour de Jésus se sont tous trompés. Peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous en avez entendu parler. Alors, moi ça m'attriste parce que cela montre une chose, c'est que ces personnes qui essaient de calculer, qui essayent de savoir quand est-ce que ces choses vont venir, sont des faux prophètes. Mais le plus grave, c'est que quand les chrétiens, ce sont les chrétiens qui écoutent ces faux docteurs. Alors que la parole de Dieu est claire, Jésus lui-même l'a dit, que nul ne sait quand est-ce qu'il revient. Le dernier faux prophète en date que moi j'ai entendu, c'est un pasteur sud-africain, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Mais Jésus devait revenir le 23 septembre de cette année. Nous sommes le 28, il me semble. Ce qui est triste, c'est que des TikTokers non chrétiens utilisent ces moyens pour discréditer la parole de Dieu, discréditer, pas la parole de Dieu, mais les chrétiens. Puisqu'il y en a une, m'a expliqué Margot, qui disait, mais vous croyez même pas à votre parole, vous croyez même pas à la référence de votre livre qui dit que nul ne sait l'heure ni l'époque. Voilà, ne nous laissons pas séduire par ces gens qui voudraient savoir et dire savoir. Deuxième partie. Le retour de Jésus arrivera comme au jour du déluge. Versets 37 à 39. Ce qui caractérisait l'époque de Noé, c'était l'insouciance des contemporains de Noé. Car Jésus met l'accent non pas sur le péché à l'époque, mais si vous lisez dans Genèse, il est dit qu'à cette époque-là, le péché était très important et que la violence était à son comble. Mais Jésus, là où il met l'accent, c'est sur l'insouciance des personnes. Puisqu'il dit, ils mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Alors, entre vous et moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à manger ? C'est même vital. Qu'est-ce qu'il y a de mal à boire ? À rien. Est-ce qu'il y a du mal à se marier ? Pas du tout. Ou à marier ses enfants, bien au contraire. Mais cela montre que lorsque nous sommes plus attachés à ces choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui nous détournent de Dieu, alors cela devient un problème dans nos vies. Ça ne s'adresse pas non seulement qu'aux non-chrétiens, mais aussi à nous, chrétiens. Lorsque ces choses qui ne sont pas mauvaises prennent la première place, alors ça peut devenir un problème et un handicap dans notre vie chrétienne. Il est dit aussi que Noé, à son époque, était un prédicateur de la justice. Donc, ce qui veut dire que Noé, pendant la construction de l'arche, prêchait, répondait certainement à ses contemporains sur ce qu'il était en train de faire et expliquait pourquoi est-ce qu'il le faisait. Pourquoi ? Parce qu'il a été divinement averti, parce qu'il a mis sa foi en action. Après avoir été averti, il a cru ce que Dieu lui a dit. Il a mis sa foi en action en commençant à construire cette arche. Est-ce que cela a changé de nos jours ? Non, on est bien d'accord. Dites aujourd'hui à quelqu'un que Jésus revient, qu'il va juger le monde et que le monde va se terminer un jour. Je pense que vous aurez comme réponse des moqueries, au mieux, et sinon de l'indifférence. Il faut se rappeler qu'au temps de Noé, les gens n'avaient jamais vu de pluie de toute leur vie, et donc encore moins un bateau, car il n'y avait pas de mer où Noé habitait. Alors le seul signe annonçant la fin du monde à l'époque de Noé, c'était la prédication de la justice. C'était la parole qu'il avait reçue. Et par la foi, il a commencé à agir et construire ce que Dieu lui a demandé. Alors si on se met à sa place, effectivement, ça a dû être compliqué pour lui. Mais est-ce que ce n'est pas aussi compliqué pour nous, aujourd'hui, chrétiens, en 2025, d'exprimer sa foi et d'exprimer ce que Dieu a fait pour nous. Noé est un prédicateur de justice, vous retrouvez ça dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 5, pour ceux qui prennent des notes. Donc Noé annonçait la parole comme nous, aujourd'hui nous annonçons la parole. Jésus prend cet exemple qui était une figure de ce qui allait arriver plus tard en sa personne. C'était l'ombre des choses à venir et ça pointait vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, L'arche était, on va dire, l'exemple ou l'ombre de la croix. Et la prédication de la justice était la bonne parole qui allait être prêchée aujourd'hui. Jésus dit donc que les choses seront comme à l'époque de Noé. Comme nous venons de voir, les choses n'ont pas changé. Elles sont pareilles, l'homme n'a pas changé. L'homme ne se soucie pas de son salut, l'homme ne se soucie pas de vouloir connaître Dieu. La folie qui était de construire un arche en plein milieu du désert, là où il n'y a jamais plu, aujourd'hui, nous la voyons dans la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1, verset 18, il est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais une puissance pour ceux qui croient. Alors, je me mets à la place des contemporains, de ceux qui ne croyaient pas, dire « Mais pourquoi est-ce que tu construis un bateau ? Il n'a jamais plu. » Sauf que le jour où le déluge est venu, que Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, c'est eux qui ont été sauvés. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un arche, c'est la croix où Jésus-Christ a été sacrifié, où il est venu donner librement sa vie afin de sauver non pas 8 personnes, mais de sauver tous les hommes. À la croix, Jésus a pris les péchés passés, présents et futurs de nos vies. Et comme l'a rappelé ce matin Alice, il n'y a plus besoin de faire des sacrifices parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Ce que Jésus aussi pointe au verset 39, c'est qu'il se doutait de rien jusqu'au jour du déluge. Mais malheureusement, c'était trop tard pour eux. Aujourd'hui, le monde tourne, le monde avance, et le monde aussi ne se doute de rien. Mais un jour, il sera trop tard. Paul l'a aussi exprimé dans sa lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. L'attitude et le comportement de ceux qui savent que Jésus revient est complètement différent de ceux qui ignorent ou qui ne veulent pas en entendre parler. Et c'est ce que Paul explique aux Thessaloniciens. Car au premier siècle, il y avait des doctrines un peu bizarres qui commençaient à circuler. Les uns disaient que c'était déjà arrivé, disaient que Jésus-Christ était déjà revenu. D'autres disaient, comme cela va bientôt arriver, eh ben, il n'y a plus besoin de travailler, arrêtons tout. Mais c'est pour cela que Paul a dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas manger non plus, ils verront que le Seigneur va venir plus vite pour eux. Parce que si vous arrêtez de manger, forcément, à un moment donné, vous allez mourir. Et Paul rappelle ici aux Thessaloniciens, comme l'a dit Jésus, que nul ne sait le jour que l'avènement de Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Mais il rappelle que les croyants ne sont pas dans les ténèbres, et qu'ils n'ont donc pas à craindre ce jour. Au contraire, nous devons veiller et à chaque jour nous préparer comme si c'était le dernier. Le monde est dans l'ignorance sur le retour de Jésus, et nous aussi, nous ne savons pas quand il reviendra. Et il y a quand même une différence notable, c'est que nous savons que Jésus revient. Et donc, quand cela arrivera, nous ne serons pas surpris, contrairement aux hommes de ce monde qui, eux, seront surpris. La troisième partie, du verset 20 au verset 44, le retour de Jésus séparera les hommes en deux catégories. Ceux qui auront cru à son retour, ceux qui auront placé sa confiance et leur foi en lui, et ceux qui n'auront pas cru. Il est dit que ceux qui auront cru seront sauvés par Jésus et que les autres seront emportés par le jugement de Dieu. Alors on pourrait se poser la question, qui sont ceux qui seront sauvés? Est-ce que ce sont ceux qui resteront sur la terre ou bien est-ce que ce sont ceux qui seront pris? Les théologiens sur ce sujet sont partagés à 50-50. Alors je vais vous donner mon opinion, qui n'est pas parole d'évangile. Pour moi, pour ma part, je pencherai plutôt sur ceux qui seront pris. Car comme lors du déluge, c'est ceux qui sont restés sur terre qui ont été emportés par le déluge. Contrairement à Noé et à sa famille, qui ont été emportés par l'arche. Ce que nous devons retenir, c'est que l'avènement de Jésus marquera le jugement de l'humanité et que Dieu séparera à ce moment-là les sauvés des perdus. D'ailleurs, à la suite du chapitre 24, nous avons le chapitre 25. Très bien, Jean-Marie, tu suis. Et là, Jésus va donner toutes ses paraboles sur le bon et le mauvais serviteur, sur les vierges folles, les vierges sages, et montrer par là qu'il y aura une séparation entre ceux qui auront mis leur foi en Christ et ceux qui n'auront pas cru. La quatrième partie, versets 45 à 51, le retour de Jésus aura des conséquences éternelles. Alors ici, dans ces versets, Jésus ne s'adresse plus aux non-chrétiens, mais s'adresse aux chrétiens. Ici, nous sommes au sein de l'Église, parce que Jésus ici parle des bons serviteurs et des mauvais serviteurs au sein de l'Église. Donc ici, l'avertissement s'adresse aux croyants. Puisque comme nous le savons, comme nous venons de le voir, les non-croyants sont voués à la colère éternelle et au jugement éternel de Dieu. Mais Jésus donne aussi un avertissement à ceux qui sont au sein de son peuple. Et cet avertissement est aussi dur et difficile à entendre. Mais si Jésus l'a dit, c'est qu'il est important. Le bon serviteur est celui qui reste fidèle, celui qui persévère jusqu'au bout et celui qui n'est pas oisif. C'est ce que Jésus dit dans ces versets. Contrairement au mauvais serviteur qui est celui qui ne s'occupe pas des autres mais qui au contraire s'en prend aux autres et qui laisse aller ses désirs charnels et qui ne se soucie guère des autres. Nous pourrions mettre en parallèle ce passage avec le passage où Jésus dit que ce ne sont pas celui ou ceux, elles, qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, pour conclure, je vais utiliser un gros mot, notre croyance eschatologique. Alors n'ayez pas peur. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Mais notre croyance eschatologique a un impact important sur notre vie. Comme Jésus vient de le dire, en opposant le bon et le mauvais serviteur, le mauvais serviteur croyait que son maître tardait. On va le relire, ça va être mieux. Mais si c'est un mauvais esclave qui se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons d'esclavage, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyons que le mauvais serviteur avait une mauvaise doctrine eschatologique parce qu'il pensait que Dieu pouvait tarder. Soit que de notre vivant, nous aurons ce privilège d'être enlevés avec Jésus-Christ, ou soit nous passerons par la mort. Seul Dieu le sait. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne tarde pas et que nous ne sommes pas éternels. Un jour ou l'autre, Dieu nous rappellera. Qu'est-ce que c'est que 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans maximum sur une vie éternelle? Ce n'est même pas une goutte d'eau dans un océan. Alors oui, un jour ou l'autre, le Seigneur viendra nous chercher. Et nous avons des exemples de chrétiens qui ont été pris du jour au lendemain sans qu'il n'y ait eu des signes avant-coureurs. J'ai un frère chrétien en région parisienne qui, chaque dimanche, s'est préparé pour aller à l'église et qui, un jour, s'est préparé, est parti à l'église et a eu une crise cardiaque sur le trottoir de sa rue. Le Seigneur l'avait rappelé à ce moment. Il était plutôt jeune, il avait dans les un peu moins de 50 ans, et rien ne préjugeait qu'il allait avoir une crise cardiaque. Alors oui, on peut peut-être se dire que Jésus revient dans longtemps, mais Jésus peut venir à n'importe quel moment, venir frapper à notre porte, d'où l'importance d'être prêt. Nous savons, et Jésus le dit, que le voleur viendra, qu'il viendra comme un voleur. La seule chose, c'est qu'on ne connaît pas à quel moment, à quelle date il va venir. Raison de plus pour encore plus être persévérant. Donc, comme je le disais, notre croyance eschatologique permet aussi d'avoir un impact important dans notre vie et notre comportement. Le plus important, c'est ce que Jésus dit, d'être trouvé fidèle. Et non pas de savoir si nous sommes, attention encore des gros mots, pré-millénaristes, post-millénaristes, amillénaristes, etc. Tout en iste, mettez la liste que vous voulez. Tout ça, c'est pas important. Ce que Jésus pointe et qui est le plus important, c'est d'être trouvé fidèle, de ne pas être trouvé oisif. C'est ce que Jésus dit, que le bon serviteur, le bon esclave, c'est celui qui est trouvé en train de travailler lorsque son maître vient le chercher. Se souvenir qu'à chaque jour, Jésus peut revenir devrait nous permettre de nous sanctifier de jour en jour. Savoir cela devrait nous permettre de nous réconcilier plus rapidement, plus facilement entre nous, frères et sœurs. Cela devrait nous permettre de nous demander pardon plus facilement, de demander pardon à ceux ou à celles qui nous ont offensés. Mais prêcher sur la venue de Jésus, c'est aussi important de dire le plus grand danger qui peut nous guetter, nous, chrétiens. Pour ma part, le plus grand danger qui nous guette, c'est le confort de nos vies. Même si politiquement la France va mal, même si les choses vont mal, on ne peut pas dire qu'en France nous sommes malheureux. On ne peut pas dire qu'en France nous ayons des grandes difficultés pour trouver à manger, pour boire, et même pour avoir des loisirs. Alors quand nous oublions de remercier Dieu pour toutes ces choses qui sont bonnes, pour tous les bienfaits qu'il nous donne, c'est peut-être à ce moment-là que nous nous endormons et que nous oublions que Jésus vient nous chercher. Si nous devions retenir qu'une seule chose ce matin, c'est de veiller à chaque jour pour être trouvé fidèle. Restez vigilants car nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Mais une chose est certaine, il reviendra. Est-ce que ça sera pendant notre génération, la génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants? Nul ne sait, seul Dieu le Père le sait. Et comme cette chose est certaine, C'est là notre espérance. Notre espérance parce qu'il vient juger à un moment donné le monde. Le monde qui se plaît dans le péché, qui se plaît dans l'injustice. Il n'y a pas besoin de vous en dire beaucoup plus. Il suffit d'allumer la télé à chaque jour pour voir toutes les injustices que nous pouvons vivre en France ou dans le monde. Mais il revient pour acheter, pour sauver, pardon, les rachetés. Et la venue de Jésus-Christ correspondra aussi à la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. La parole de Dieu est claire. Vous pouvez le lire dans l'épître de Pierre, où il explique que cette terre, ces cieux passeront, seront détruits, seront passés au feu, et que Dieu, qui a créé toutes choses, créera une nouvelle terre et des nouveaux cieux, afin que nous puissions reprendre le plan de départ de Dieu, qui était que nous soyons tous des gardiens de la terre, que nous profitions de ce que Dieu avait créé. Ce qui est aussi notre espérance, c'est de savoir que nous ne serons plus seuls, que Jésus effacera toutes nos larmes de nos yeux et qu'il vivra avec nous. Dieu viendra avec nous. Ces images qu'on a d'une éternité dans les cieux sur des nuages, c'est une fausse image parce que la parole de Dieu est claire. Il est dit que c'est Dieu lui-même qui viendra habiter parmi les hommes. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que Dieu sera avec nous, nous qui méritions la mort, mais qui nous a sauvés par Jésus-Christ, son Fils. Il sera avec nous et nous passerons l'éternité, oui, à adorer Dieu. Nous passerons l'éternité à le glorifier comme nous l'avons chanté, gloire à l'agneau. Mais nous passerons aussi notre temps à faire des choses comme Dieu l'avait prévu. Alors cela, ça s'appelle les récompenses, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer un autre jour. Et Jésus en parle énormément dans ses discours, lorsqu'il en parle à ses disciples, que les récompenses sont liées à ce que nous faisons sur cette terre. Dieu est juste, parce qu'un chrétien qui persévère, qui agit fidèlement, qui fait énormément pour le Seigneur, Dieu le récompensera plus que quelqu'un qui, entre guillemets, se repose sur ses lauriers. Et ça, c'est un autre sujet. Alors, pour finir, oui, je sais, une seconde fois. Mais cette piqûre de rappel est bénéfique à plus d'un titre, car elle s'adresse, je dirais, à trois catégories, à ceux et celles qui se sont appesantis, qui se sont peut-être endormis au fil des années, à cause, comme je l'ai expliqué, peut-être au confort de la vie. Je peux vous témoigner, je l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous, le moment où j'étais le plus proche du Seigneur, où ma vie, on va dire, était la plus intense avec le Seigneur, c'est dans mes années de galère, de difficultés financières qui ont duré des années. Mais je peux vous assurer que c'était les moments les plus riches, spirituellement parlant. Il me suis fait la réflexion que depuis que le Seigneur m'a fait cette grâce de m'en être sorti, ben j'ai tendance à m'endormir, à penser inconsciemment ou peut-être consciemment que cela m'est dû, que j'ai plus besoin de m'appuyer sur le Seigneur, que c'est normal. Non, je demande pardon au Seigneur parce que tout ce que j'ai, le travail qu'il m'a donné, ce que j'ai, ce que je possède, vient de lui. Donc, ce message, oui, s'adresse à ceux qui se sont peut-être apesantis, endormis, et qui ont peut-être perdu aussi de vue que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Notre vie n'est pas ici-bas, frères et sœurs. Nous n'avons pas à nous construire un empire, j'allais dire, à nous construire quelque chose sur cette terre, parce que de toute façon, je peux vous le dire, vous n'emporterez rien. Parce que le cercueil est trop petit. Vous ne pourrez pas mettre votre maison, vous ne pourrez pas mettre votre voiture. Non, vous n'emporterez rien. Alors peut-être vous avez perdu cette perspective. Ce rappel est là pour nous dire que notre perspective est de régner éternellement avec notre Seigneur. Et que Jésus-Christ, lui-même, nous prépare une demeure. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. « Je m'en vais, vous préparez une demeure. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Cette piqûre de rappel est bénéfique peut-être aussi à ceux qui sont dans l'épreuve en ce moment et qui ont besoin d'être encouragés. On en a parlé au début, nos frères et sœurs ukrainiens, mais peut-être toi dans ta vie qui vis des moments très difficiles, que ce soit financièrement, que ce soit dans ta vie familiale, voilà, se rappeler que Jésus vient, que Jésus est avec nous, et que comme nous venons de le voir, ce n'est pas en regardant nos pieds et en regardant sur cette terre que nous allons être encouragés, mais bien au contraire, nous souvenons que Jésus vient. Viens nous chercher, viens pour essuyer toute larme de nos yeux. Et peut-être que pour la troisième catégorie, à ceux qui n'ont pas encore fait le choix de se repentir, peut-être à ceux qui n'ont pas fait encore le choix de reconnaître Jésus-Christ comme leur seule porte de salut, et que ce rappel ou peut-être cette nouveauté que vous venez d'entendre puisse avoir un impact dans votre vie, pour que vous sachiez que oui, Jésus-Christ revient, que oui, Jésus-Christ est venu à la croix pour vous sauver, qu'il a pris vos péchés. Et oui, que c'est une folie de croire qu'il n'y a rien à faire, que nous sommes sauvés par la foi. Et que cette foi même, comme le dit la parole de Dieu, cette foi, ce n'est même pas nous qui l'avons créée en nous, mais que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et cette foi est un cadeau. Alors si ce matin, tu n'as pas fait ce choix, sache qu'il n'est pas trop tard. Parce qu'aujourd'hui, Dieu appelle encore. Il appelle aujourd'hui parce que demain, on ne sait pas si demain arrivera. Et c'est aujourd'hui que Dieu appelle. Dieu nous appelle à faire ce choix, à se repentir, comme je l'ai dit, à se reconnaître tous pécheurs, tous coupables devant Dieu. Mais à reconnaître que Jésus-Christ est celui qui peut me sauver, à reconnaître que je suis incapable, par moi-même, par mes bonnes œuvres, me sauver, mais que seule la foi en Christ et en son œuvre peut me sauver. Alors voilà un thème qui est peut-être pas souvent prêché dans nos églises, mais qui est d'une importance quand même capitale. Savoir que Jésus revient bientôt nous permet de nous comporter autrement. Dans notre vie de tous les jours, à l'école, à l'université, au travail, mais aussi dans notre communion les uns avec les autres, de pouvoir être plus prompte à pardonner, à oublier, à s'aimer. Voilà, pour terminer, je vous propose de fermer nos yeux et de prier. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as rien caché. Tu as répondu aux deux questions de tes disciples, mais la deuxième réponse n'était peut-être pas celle que nous attendions. Mais c'est ta réponse. Tu as voulu nous cacher ces moments parce que je pense que tu as voulu que chaque génération se prépare. Je pense que tu as voulu que chaque génération soit prête à ton avènement, à ta venue. Seigneur, merci parce que cette espérance est grande, cette espérance est merveilleuse. Et cette espérance nous permet de tenir dans nos épreuves, de tenir dans nos difficultés. Cette espérance nous permet de savoir que un jour tu viendras pour juger ce monde, qu'un jour tu viendras pour nous sauver. Seigneur, merci parce que, comme nous l'avons dit, nous n'avons rien fait pour cela, mais c'est toi qui nous as attirés, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as donné la foi afin de pouvoir répondre favorablement à ton appel. Je veux te prier ce matin, peut-être pour ceux et celles qui entendent, peut-être pour la première fois l'évangile, Ils se disent que tout cela est bizarre à leurs yeux, à leur entendement. Mais Seigneur, tu es celui qui est venu nous chercher et tu es celui qui peut venir encore les chercher ce matin. Puisses-tu, Seigneur, toucher leur cœur. Puisses-tu, Seigneur, leur parler par ton Esprit Saint afin d'enlever le voile de leurs yeux pour qu'ils puissent comprendre et réaliser que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre, que tu es le Dieu créateur des hommes, que tu avais un plan, que tu as envoyé ton Fils afin de détourner la colère qui nous était due sur lui, et que tu nous as rachetés afin aussi de pouvoir régner avec toi éternellement et renouveler cette terre, renouveler ces cieux. Seigneur, ta parole a été prêchée, qu'elle puisse maintenant porter du fruit, qu'elle puisse porter du fruit afin que, Seigneur, ta bénédiction, que ton œuvre puisse grandir dans les cœurs de chacun et que nous puissions continuer, Seigneur, à nous sanctifier de jour après jour, sachant que tu viens nous chercher. Sois béni, sois loué, Dieu éternel, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste. Ce que tu as dit, tu le feras, tu l'accompliras, et tu n'es pas un homme pour mentir. Bien au contraire, tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as prophétisé, tu l'as accompli, Seigneur, et nous savons que cette parole est certaine. Sois béni, Père, et sois loué. Amen.